le mot béni ou heureux veut dire qu'il possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent.
Waouh.
Ça, c'est pas mal, hein. Donc, être béni, être heureux, c'est posséder une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent.
Waouh.
Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le parapluie céleste contre toutes les calamités, hein. Bien sûr, nous pouvons regarder en face la vérité, hein, on va pas se cacher et se mettre la tête dans ça pour ne pas voir les problèmes qu'il y a, mais en regardant en face l'adversité et même nos adversaires quelquefois, hein, le psaume 23 le dit, hein, de ma coupe déborde. Oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi pas? C'est le projet de Dieu, ça. C'est notre foi. Nous confessons cela et puis alors nous retournons dans nos tristesses et nos râlements et de tous les problèmes et tout ci, tout là. Non, le Seigneur veut vraiment nous entourer de son amour, de son esprit consolateur. Nous savons que nous sommes l'objet de son affection et que l'Esprit Saint vient, c'est le consolateur, le paraclet qui vient nous fortifier pour que nous puissions fortifier ceux qui sont sans consolation. Nous sommes aussi des êtres qui consolons les autres. Mais il faut être rempli, il faut être des canaux, il faut se mettre au service du Seigneur. Et alors, on le devient. Alors, est-ce qu'on peut mettre les dias? Parce que normalement, il y avait des diapositives qui pouvaient venir ici. Si c'est possible. Comment? Mais non, ce sera des diapositives. Rien que des positives, des diapositives, d'accord? Les négatives, c'était autant de... voilà. Alors, Léa arrive. Hein. Bon, le premier point, je suis heureux de recevoir la révélation de ma pauvreté pour m'enrichir de Dieu, de Jésus. Lui, qui était riche, riche de la gloire qu'il avait au ciel, il a accepté de venir vivre sur la terre, et s'est appauvri. Enfin, d'une certaine manière, entre guillemets, il est venu, il a pris forme dans un être humain, il est devenu réellement homme. Et donc, il a laissé la gloire qu'il avait au ciel pour venir vivre sur cette terre, souffrir et mourir. Et dans ce temps-là, obéir. Hein, obéir au Père, accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait fait vivre, naître sur à Bethléem, et vivre cette vie pour que nous puissions, nous, être enrichis par sa vie. Il s'est appauvri, s'est fait pauvre, afin que nous devenions riches en lui. Mais tant que nous sommes riches de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre la nécessité de s'enrichir de lui. Notre richesse l'empêchera de nous enrichir. La richesse des intelligents les empêche de recevoir la sagesse de Dieu, de recevoir les yeux spirituels qui vont leur faire comprendre le salut. C'est une folie. C'est une folie pour le monde et pour les intelligents de ce siècle. Mais c'est une puissance de salut pour quiconque croit, du juif premièrement et du grec. L'évangile est une puissance extraordinaire de vie. Je suis heureux de recevoir la révélation de ma pauvreté. Voilà, la béatitude, le vrai bonheur, développer notre joie de vivre. Nous devons développer notre joie de vivre, c'est important. Le mot béni, on l'a vu, qui possède une joie intérieure, ça nous l'avons lu aussi. Donc, je suis heureux de recevoir la révélation de ma pauvreté pour m'enrichir de Dieu. Heureux ceux qui se savent pauvres. Faut-il encore se savoir pauvre? Hein, parce que tu crois être riche, dit Jésus à une église dans l'Apocalypse, parce que tu crois être riche, mais tu es pauvre, malheureux et nu. Alors viens t'enrichir de moi, mais reconnais ta pauvreté. Sans reconnaître notre pauvreté, nous ne pouvons pas être enrichis. Il faut réaliser qui nous sommes, nus, pauvres, malheureux. Celui qui peut confesser cela et dire, Seigneur, ben maintenant, je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi, Je veux mon héritage. Je veux ce que tu as prévu pour moi. Je veux posséder le pays promis. Je veux dire, je veux posséder toutes les promesses que tu as prévues pour moi. Une vie bénie, pleine, remplie. Je veux. Et le Seigneur, mais il faut d'abord confesser nos pauvretés pour ça. Heureux ceux qui savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Se savoir pauvre en soi-même, c'est ça, la vraie confession, c'est le fils prodigue qui revient vers son père, et je ne suis pas digne, je ne suis pas digne d'être encore appelé ton fils, mais considère-moi comme un ouvrier dans ta maison, et ça me suffira, parce que je sais que tes ouvriers sont bien traités, mais tu es mon fils, mais il est revenu, il a connu sa pauvreté, et tous ceux qui connaissent leur pauvreté peuvent maintenant habiter dans la maison du père. Dieu les reconnaît comme des fils et des filles. Mais ceux qui ne se reconnaissent pas pauvres, mais qui croient être riches par eux-mêmes, ils connaissent, ils ont, non, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de me repentir, j'ai tout ce qu'il faut, non, il n'y a pas de problème pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai une religion, j'ai une maison, je suis marié, j'ai ci, j'ai des enfants, j'ai, tout va bien pour moi, et, j'ai pas besoin. Mais quand je reconnais ma pauvreté, alors, je réalise combien je suis loin du compte et que cette richesse, je ne l'ai pas. Les richesses de Jésus, extraordinaires. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que toutes les bénédictions se trouvent. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Reconnaître notre pauvreté, c'est nous ouvrir aux richesses de Dieu. C'est abandonner tout ce qui pourrait nous apparaître précieux pour recevoir la vie, pour recevoir la vraie richesse du cœur de Dieu. Et donc Pierre avait reçu une révélation. Matthieu 16, 17, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu es le fils de Dieu vivant, le Christ, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il a eu besoin d'une révélation. Sans révélation, Pierre ne pouvait pas, par la chair et le sang, dire « Tu es le Fils de Dieu, le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » c'est par l'Esprit du Père, c'est une révélation qui lui a été donnée à ce moment. Et la révélation de Dieu rend heureux. Si vous voulez être heureux, eh bien, cherchez Dieu, il va vous révéler. Dieu va se révéler, et il n'y a pas de plus grand bonheur à recevoir la révélation du Père, à recevoir la révélation que l'Esprit veut mettre en vous, la révélation du Fils. Et pour posséder cela, il faut lâcher ce qu'on a dans les mains. Vous savez, un enfant, il tenait quelque chose dans les mains, et on voulait lui donner des bonbons, mais avec quelque chose dans la main, c'est difficile, hein, si on a déjà rempli de quelque chose, donc il faut lâcher. Lâchez toutes vos richesses, lâchez vos raisonnements, vos pensées, tout ce qui vous accapare, tout ce qui a pris le dessus en vous, qui vous contrôle, toute idolâtrie, toute pensée, tout raisonnement, ben lâchez prise, lâchez, et là vous allez pouvoir prendre. L'enfant a pris alors à ce moment-là tous les bonbons du confissier parce que il avait lâché l'objet qui était dans sa main, il a pu prendre. La deuxième chose, je suis heureux de me repentir, car le royaume de Dieu a pris place en moi. Je suis heureux de me repentir, parce que c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu commence à prendre place dans ma vie. Bien sûr, par la foi, hein, mais la repentance est importante. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oh, je le vois dans cette visée-là, hein, on pourrait le voir d'une autre manière aussi, mais... voyons-le simplement, cette tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut. Voyons-le comme cela. De Corinthiens 7, 10, on l'a vu déjà hier. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La tristesse selon Dieu. Quand je réalise mes fautes, je suis triste. Triste sur moi-même. J'ai échoué. Je n'ai pas réussi. C'est vrai. Je pleure sur mes péchés parce que c'est une ruine, des décombres. Et quand c'est comme ça, quand je peux voir avec des yeux spirituels la réalité, alors c'est quelque chose de magnifique. Parce que la repentance, c'est pas une condamnation. La repentance, c'est une visitation de Dieu, une révélation de qui nous sommes, de ce que nous avons fait. Et ça va produire des fruits. Comme Jérémie, il a été établi pour arracher, détruire, démolir, etc. Et pour planter, construire. Eh bien, quand on a arraché, on a enlevé, on a détruit. Eh bien, quand Dieu enlève nos péchés de nos vies parce qu'on lui confesse véritablement, alors il peut construire quelque chose de neuf. Pas de problème. Mais tant que ça subsiste, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne peut pas mettre quelque chose en vous s'il n'y a pas quelque chose qui sortir. Hein? Il faut d'abord éliminer le mauvais et puis le bon va venir après. D'accord? Hein? Vous mettez votre foi en Christ, vous confessez vos péchés, et là il y a de la tristesse parce que c'est bien sûr on est confronté à ce que nous sommes et qui il est, Dieu. Nous sommes pécheurs, vendus au péché, je pensais que j'étais bon, mais j'étais loin de l'être. Et la révélation me montre que je suis un pécheur. Et que sans abandonner mes fautes, je ne peux pas connaître le Seigneur. Alors, pleurons sur nos péchés, chaque fois qu'il y en a, pour que nous puissions nous faire quitte de cela. Chaque fois qu'il y a un péché, je prends la victoire, je le confesse à Dieu, et je n'y retourne pas. Je ne retourne pas dans mon vomi. Mais je continue avec le Seigneur. C'est pas un sauveur que j'ai seulement, c'est un Seigneur qui veut me rendre fort dans toutes les luttes, dans tous les combats. Et qui veut me donner la victoire dans mes failles. Pour que je puisse reconstruire ma vie, je laisse reconstruire ma vie afin qu'elle soit forte, bâtie sur le roc. Nous devrions être des maîtres de Jésus. Et nous sommes encore au lait. Alors, si nous sommes au lait, eh bien, il va construire comme un petit enfant. Hein, on reprend ici tous les stades de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et le but, c'est de nous conduire à la stature parfaite des hommes et des femmes de Dieu. Hein, à la ressemblance de Jésus-Christ. Les émotions suivent notre choix, car on ne se laisse pas guider. Mais on ne se laissera pas guider par nos émotions. C'est vrai que la tristesse, sur notre moi défaillant, sur notre misère intérieure, sur nos péchés, sur nos échecs de notre vie, sur la mauvaise manière d'avoir géré notre vie, cette tristesse-là, elle est nécessaire. Mais je ne vais pas vivre sur l'émotion. Cette émotion-là, elle est nécessaire. La tristesse, c'est bien. Mais ça ne doit pas être des émotions qui dicte notre façon de vivre. Il y a aussi des choix à faire. La tristesse va me conduire à un choix. Et c'est bien de choisir. Pas simplement être conduit par une atmosphère, ou par des sentiments, ou par une émotivité. Mais nous arrivons à choisir. Choisir le bien, choisir la vie, hein, et non la mort. Choisir les voies droites du Seigneur. Les émotions sont mauvaises conseillères. Voulons pas faire de choix selon l'émotion, mais par l'Esprit de Dieu, nous voulons être convaincus de ce que nous devons faire. Et la tristesse va nous pousser à l'action, et non pas à la nostalgie. La tristesse selon Dieu, c'est pas rester dans la tristesse toute notre vie, la nostalgie, ouais, c'est... Non, la vie chrétienne, c'est une vie joyeuse, c'est une vie de victoire. Nous allons de victoire en victoire, et s'il nous arrive d'avoir quelques échecs, dans nos vies, de tomber, c'est pour mieux nous relever, parce que Dieu nous veut nous apprendre à marcher droit, à marcher avec lui, d'un pas assuré. Il est avec nous, hein, de toute façon, même quand on fait une gourde, eh bien, le Seigneur n'est pas là pour appuyer la défaite, non, il veut justement nous donner une parole d'encouragement, viens, je vais t'apprendre à marcher, et même à courir, hein, avec l'aide de Dieu. Et donc cette tristesse dans notre cœur va se transformer en joie et porter du fruit en nous. Porter du fruit en nous. Je suis heureux en étant doux, c'est le 3, je suis heureux en étant doux et en transmettant la douceur aux autres. Alors là, c'est tout un programme, la douceur, oui, elle est soi-disant là, mais bien souvent, Bien souvent, quand nous nous levons, bien souvent, quand il y a des petits problèmes de circulation dans le trafic, bien souvent, quand il y a des gens qui nous énervent ou quoi que ce soit, alors comment est-ce que nous sommes ? Doux ou pas ? La nature humaine, la nature adamique, c'est vrai que notre vieille nature n'est pas forcément douce. Il y en a qui, je vais dire, ressemblent à la douceur. Hein, il y en a qui ont plus facile, plus jovial, plus enthousiaste, plus il y en a qui ont plus facile, et puis d'autres qui rament hein, par rapport à ça, ils ont plus difficile, ils ont un tempérament là fougueux, etc. Et rentrent dedans ou autre chose, et rancuniers ou n'importe quoi, ayant facilement des mauvaises pensées. Alors tout ça, ça crée de la raideur, etc. Alors le Seigneur, il veut changer nos cœurs. Si nous avons un cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair. Et ça, c'est... vous savez, comment ça se passe, la transformation ? Comment est-ce que la transformation de nos cœurs s'effectue ? Dans la présence de Dieu, la présence de... Vivre dans la présence de Dieu. Si, tout de suite que je me lève, et même pendant la nuit, s'il le faut, je me lève et je veux vraiment être en relation avec Dieu. Je veux pas me laisser abattre par des pensées qui m'agitent, qui me démolissent, qui me font voir tout en noir et en négatif, mais je veux me consacrer à la parole de Dieu, à la prière. Je veux laisser place au Saint-Esprit dans ma vie, soyez rempli du Saint-Esprit, et si l'Esprit Saint est renouvelé dans ma vie, la parole de Dieu vient renouveler ma vie, mon cœur, même si je suis un nostalgique, un homme qui se fâche facilement, ou quelqu'un qui s'emporte, ou quelqu'un qui ronchonne, ou quelqu'un qui râle surtout, peu importe, eh bien ça va être transformé. Il va y avoir une vie remplie de douceur. Si vous avez le Christ en vous, il y a de la douceur dans le Christ. Et donc, cette douceur-là va venir en vous par sa présence. C'est un Dieu rempli de douceur. Jésus, il est doux et humble. Et donc, cette douceur, cette humilité qui manque quelquefois, va être comblée par la présence de celui qui est en nous, qui est rempli de douceur, de tendresse. Et même si, naturellement, ce n'est pas cela, eh bien, spirituellement, ça va le devenir. Ça doit le devenir, et ça va changer. Et il faut prendre par la foi que la douceur va devenir votre façon d'être. Votre sentiment que vous allez mettre en premier, vous allez vivre dans la douceur. Extraordinaire, ça. Donc, si ce n'est pas encore une réalité, eh bien, on va marcher vers ce fruit de l'esprit. Hein. C'est un fruit de l'esprit, c'est la douceur. Dieu veut que nous soyons doux. D'ailleurs, Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, je vous le répète. Et il le dit à plusieurs reprises dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Donc, c'est tellement important, cette douceur. Et la douceur, c'est recevoir la grâce et la transmettre, parce que la douceur, les autres en ont besoin. Si vous transmettez la dureté, les gens s'éloignent de vous, ils disent, ouf, je vais pas aller près de cette personne, ça me fait pas trop de bien, donc on s'écarte des gens qui nous font du tort, naturellement. Et donc, c'est vrai, la douceur, c'est important. Le don reçu est donné, et le fait d'être un canal de cette douceur nous rend heureux. Si je suis doux avec les autres, ils s'en trouvent bien, on s'en trouve bien, et on s'en trouve bien parce que Jésus est là. Jésus nous remplit de cette douceur, et nous devenons de plus en plus comme Dieu. Voilà, la dureté humaine et la douceur divine. Donc, la dureté doit sortir de nos vies et être remplacée par la douceur de Jésus-Christ. Et voilà, la douceur n'a rien à prouver. Elle est l'attitude qui convient à tout enfant de Dieu. La douceur procure paix et acceptation. C'est extraordinaire. La douceur est une invitation à l'amour. La douceur, enfin, la dureté, ça éloigne l'amour. Hein. Mais la douceur, ça invite l'amour. L'amertume, la rancœur, les inquiétudes non déposées à Dieu, l'oubli de la présence de Dieu, le manque de pardon et de relation avec Dieu nous rendent durs, car la chair est dure, parce que la vie est dure. Et c'est vrai, mais Jésus est avec nous. La présence de Jésus, la parole du Seigneur, la prière, la louange invitent à la douceur quand j'ai tout déposé aux pieds du Seigneur et que je me laisse porter par lui. Il est avec nous, alors qu'est-ce qu'on a à craindre? Il est là. Il a promis d'ôter notre cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Hein, c'est important. Hein. Alors, le quatrième, je suis heureux quand je me soumets à Dieu pour lui obéir. Voilà, l'obéissance, c'est vraiment difficile quand on n'a jamais vraiment obéi, que on s'est soumis seulement en surface pour ne pas avoir trop de problèmes, mais qu'au fond, hein, on est rebelle, parce que nous sommes tous des rebelles, hein, d'accord? Nous provenons de la rébellion. La chair est rebelle, elle se soumet pas à l'Esprit de Dieu. Donc c'est normal d'être rebelle au départ, puis nous apprenons qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu, se soumettre à Dieu, obéir, devenir obéissant, et bon, il y a beaucoup de réticence à la véritable obéissance. Beaucoup de réticence. La chair veut encore travailler toute seule, utiliser seulement l'intelligence, utiliser seulement les émotions, utiliser seulement la volonté, hein, et pas laisser faire l'esprit. Bien souvent, c'est comme ça. Alors, nous devons apprendre à nous soumettre corps, âme, esprit, vraiment notre volonté, nos sentiments et notre intelligence à l'Esprit de Dieu. Que ce soit par l'Esprit que nous puissions marcher pour accomplir la volonté de Dieu. Rien ne nous oblige, hein. Donc, je suis heureux quand je me soumets à Dieu pour lui obéir. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Faim et soif. Vraiment, que je puisse avoir faim et soif. Parce que Jésus, il avait faim et soif. Constamment de faire la volonté de son Père. Si on oublie ça, ça c'est la plus grande mission que nous avons à faire sur la terre, c'est faire la volonté de Dieu, mais dans la joie, en étant heureux. Parce que, vous savez, si vous n'êtes pas heureux, les gens de l'extérieur vont dire, être chrétien, ça va être dur, tellement dur, je sais pas si je vais être encore plus triste que maintenant, non, ça va bien comme ça. Non, donc, si nous reflétons la joie du Seigneur, ça va être extraordinaire, les gens vont venir, hein, je vous assure. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Extraordinaire. Alors c'est tellement important de ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voilà, faim et soif de vivre, faim et soif d'obéir, faim et soif de justice. Rechercher la justice de Dieu, rechercher l'obéissance, rechercher à se soumettre à lui, à faire le plan de Dieu pour ma vie. Il y a un plan pour chacun. Le plan pour Clémentine, il est différent. D'accord? Pour Sandrine, pour Yona, etc. Hein, pour tout le monde, je ne vais pas... Parce qu'après, je vais devoir donner tous les prénoms. Non, bon, chacun, il y a un plan. Il y a un plan parfait, un plan extraordinaire. Mais voilà, maintenant, on reconnaît l'ouvrier au pied du mur. Hein, maintenant, voilà, il y a un projet extraordinaire, mais si on n'écoute pas Dieu, hein, alors comment est-ce qu'on va faire? Avoir faim et soif, c'est rechercher continuellement. Par exemple, rechercher continuellement sa face. En Chronique, chapitre 16, verset 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Chercher continuellement sa face. Cherchons continuellement la face de Dieu. C'est ça, avoir faim et soif de la justice. C'est pas se rappeler le dimanche matin, ou le samedi soir, parce que c'est exceptionnel. Ah oui, c'est vrai, Dieu existe. Ben non. Et la présence de Dieu, elle est là, mais c'est vrai, quand vous êtes reparti chez vous, elle est là, hein. Même seul dans son lit, Dieu est là. D'accord? Il n'y a pas d'angoisse à avoir nécessairement. Dieu est là. Dieu est avec vous, sans crainte, pas de peur. Jésus est là. Et je veux obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, c'est Samuel qui l'a dit au roi Ésaü. qui avait fait bien d'autres choses que l'obéissance. Hein. On devrait reprendre tout le texte, il devait tuer le roi d'Amalek et il l'avait laissé en vie. Il devait tuer toutes les bêtes d'Amalek là, de la ville qu'il avait prise. Et puis il avait laissé la vie aux plus belles. Il n'avait pas écouté le Seigneur. Et voilà, donc, Samuel lui dit, l'obéissance. Mon ami, ce que t'as fait, c'est pas bien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas me faire des cadeaux qui compte. N'essaye pas de faire des cadeaux. Ce que je veux, c'est ton obéissance. Hein, c'est ce qu'on dit aux enfants quand ils font des cadeaux à leur père et à leur mère. Oui, mais ce que j'aimerais, surtout, le plus beau cadeau, hein, c'est quoi? C'est, on dit jamais ça comme ça. Mais on le pense peut-être quelquefois, hein. On le pense. Le plus beau cadeau, on est content de leur cadeau, oui, c'est formidable. Mais quelque part, hein, ceux qui ont des enfants très désobéissants, ben, ceux qui souhaiteraient le plus beau cadeau. Ben, d'abord, il y a des enfants qui sont obéissants. Mais, pour ceux qui ne le sont pas, le plus beau cadeau qu'il pourrait faire, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, pas de problème. Voilà. Alors, Jésus disait, ma volonté, c'est de faire tout ce que je dois faire au Père. Une volonté dégagée de tout entêtement. Une volonté de soumission et d'écoute. Une volonté de voir comme Dieu et d'aimer comme Dieu. C'est extraordinaire, ça. Cette volonté d'aimer comme Dieu procure de la joie lorsque Dieu met sur notre route des personnes à aimer. Extraordinaire. Alors nous avons rencontré Serge sur la route, hein, c'est pas Serge ici, des autres Serge sur la terre, et c'est un Camerounais, et je sais pas pourquoi, on s'est arrêté, et on avait la même idée, ça s'arrêtait pour Serge, enfin il nous a appris qu'il s'appelait Serge, hein, parce qu'on ne le connaissait pas avant, et voilà, et on parle un petit peu avec lui, et finalement on apprend que c'est un chrétien de l'église du TPE. C'est étonnant, on ne s'y attendait pas. Et voilà, eh bien, on l'a conduit jusque dans le mur. Il n'y avait plus de bus, il était venu mettre sa voiture en réparation ici. Il fait des études en gestion à Namur aux facultés. Et voilà qu'on le rencontre, c'est étonnant. Hein. On l'a reconduit jusqu'à son domicile. Vraiment, c'est sa prière, j'en suis sûr. Hein. Seigneur, donne-moi une solution pour rentrer. Et voilà, on était la solution. Et... c'est des choses un peu spéciales. Dieu nous a utilisés pour bénir cet enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Donc, laissons-nous utiliser. Alors, je suis heureux en aimant inconditionnellement comme Dieu, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Inconditionnellement, il n'y a pas de condition. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Cet amour-là ne se voit pas toujours. Derrière, il y a des idées... Hein, mais quand on est quelqu'un qui peut pas nous rendre, normalement, il n'y a pas d'idée derrière. On aide, point à la ligne. Sans retour, on aime. Ça, c'est beau. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Il ne s'attendait pas. Si, il espère tout. Parce que l'amour espère tout. Hein. Alors, il espérait tout de nous. Mais il peut être déçu. L'amour, il peut être déçu, vous le savez. Hein. Alors, c'est vrai que Dieu donne la même grâce à tous les êtres humains sur la terre. Certains reconnaissent, d'autres pas. C'est comme avec les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu pour dire merci, mais hein, c'est pas tout le monde qui dit merci, même quand il a reçu tellement. Alors, nous aussi, nous devons être comme Dieu, c'est-à-dire aimer sans condition. Sans condition. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai que c'est Dieu qui nous rendra de toute façon. Si nous faisons quelque chose de bien pour un pauvre, bien Dieu le voit, et puis Dieu le rendra. Il y a une récompense pour toutes les actions bonnes. Et on voit, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Si nous avons de la compassion pour les autres, Dieu en aura pour nous. C'est important quand même de l'accomplir. Ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux, ils sont heureux ceux qui sont bons, oui, c'est ça. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. La miséricorde, c'est donner à des gens qui ne peuvent pas nous le rendre. Il y aurait même pas de raison de le faire, mais on le fait. Et c'est ça, la miséricorde. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Hein? Est-ce que nous le méritions? Non, on ne le méritait pas, mais il l'a fait quand même. La bonté, c'est refléter l'amour de Christ à nos prochains, c'est aimer en action et en vérité. Hein, la compassion, c'est permettre à l'émotion de nos entrailles d'agir en faveur des autres pour répondre à leurs besoins. C'est permettre à notre cœur de devenir celui du Christ, c'est laisser le Seigneur animer notre vie pour transmettre aux autres un bon signal, celui de l'amour inconditionnel de Dieu. Ça, c'est important. Nous sommes un reflet du Christ. Nous devons refléter. C'est ça, l'Église. Elle reflète Christ autour de nous. Nous reflétons Jésus autour de nous. La miséricorde, on l'a dit, c'est faire du bien aux autres sans référence à leur mérite, ni à leurs conditions sociales, leur religion, etc. On fait du bien aux gens parce qu'ils sont des êtres humains, point à la ligne, sans espérer quoi que ce soit. Comment puis-je m'investir dans la vie de ceux qui connaissent une épreuve, un malheur, par la prière et l'action, en se laissant guider par l'Esprit? Ce sera chaque fois une histoire différente, une histoire à raconter, un témoignage extraordinaire. Alors, je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous diriger par rapport aux besoins que vous voyez autour de vous. Le sixième point, je suis heureux en gardant un cœur pur et en bannissant la crainte du jugement. Parce que le cœur pur est la crainte qui peut nous saisir. Ça, c'est intéressant, tiens, de mettre les deux points en relation. Alors, le cœur pur, c'est vrai que Dieu veut que nous ayons un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est tellement important, nous voulons voir Dieu, et bien sûr, il faut se garder de toute souillure de la chair et de l'esprit, se garder pur devant la télé et Internet, être net devant Internet, c'est sûr. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garder son cœur, c'est tellement important. Tellement important. Dieu nous voit. Si personne ne nous voit, Dieu, il a les yeux sur nous. Quelquefois, on oublie que Dieu nous voit. On oublie même qu'il est présent. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Avoir les yeux sur Jésus, c'est savoir qu'il est là. C'est être constamment éveillé au fait qu'il est avec nous, pas pour nous juger, hein, pour être avec nous et nous soutenir dans nos combats et nous donner la victoire. Parce qu'il nous aime. Il n'est pas là pour pointer son doigt. Et le doigt accusateur, c'est l'ennemi. Hein, on l'a déjà assez avec celui-là. Mais Jésus, lui, il nous aime. Il est avec nous pour nous donner la victoire. Ça, c'est important. 1 Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » L'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Parce que la crainte, eh bien, elle signifie un jugement. S'il y a de la crainte dans mon cœur, mon amour n'est pas parfait. Il y a comme un jugement. Comme une condamnation. Alors que, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je confesse ma faute, si j'ai fait une mauvaise pensée, si il y a eu quelque chose qui s'est produit, et puis je m'en rappelle, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas me laisser torturer par l'ennemi en disant, t'as vu, tiens, à côté. Non, mais je demande pardon alors. Je demande pardon et pour en être libéré, afin que le sang de Jésus me purifie de tout péché et que Jésus soit pleinement en moi, il reste en pleinement en moi, mais son amour soit intact, soit pas entaché d'une crainte, d'un jugement. Hein. Et quand il y a une crainte d'un jugement, l'amour n'est pas parfait. Et ce que Dieu veut, c'est que l'amour soit parfait en nous, et donc la crainte doit disparaître. Puisque Dieu m'aime à 100%, j'ai plus besoin de craindre. Puisque Jésus est l'avocat à la droite du Père, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Et je confesse tout, je suis libre, je suis transparent avec le Seigneur, il voit tout à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux cacher? J'essaie de cacher l'un et l'autre, tant il faut pas qu'il le sache. Non, je dis tout à Dieu. Alors, au Seigneur, je dis tout. Vous n'êtes pas obligé de dire toutes vos pensées aux autres, de ce que vous avez eu comme mauvaise histoire, mais à Dieu, lui, il comprend tout, il sait tout. Et quand je suis lavé par le sang, je suis purifié, j'ai pas besoin de me tracasser, je suis pur. Et s'il faut redemander pardon, vous savez, si vous péchez, si quelqu'un pêche contre une autre personne, il faut lui pardonner combien de fois? 490 fois, hein, 7 fois 70 fois. Alors, si nous avons des péchés dans nos vies, Jésus ne fait pas ça aussi? C'est la même chose. Il le fait autant, et même plus. Donc, il est Dieu, lui. Alors, il pardonne tout. Hein? Mais il faut pas rester dans la faute. Il faut pas rester dans ce péché en disant, je vais encore un peu le cacher quelques instants, ou quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours. Demain, je demanderai pardon. Non, non. Je demande pardon pour en être libéré, parce que sinon, il y a une chaîne. Et avec cette chaîne-là, l'ennemi fait une œuvre. Et avec cette œuvre-là, il va détruire. Donc, je ne laisse pas l'ennemi me démolir, mais au contraire, je prends la victoire et je suis libre en Jésus-Christ, couvert de son sang. La pureté demande du contrôle. Christ étant au centre de toute chose, ma foi, mon cœur, mon âme et ma conscience cherchent à plaire à Dieu. Savoir que je suis couvert du sang précieux me garde dans la paix, car le sang de Jésus me purifie et me rend pur à chaque instant, à chaque instant. Et ça, c'est important. Alors, le septième point, je suis heureux quand j'ai la paix avec Dieu et que je la procure aux autres. Voilà, je suis heureux quand j'ai la paix avec Dieu parce qu'il me donne la paix par Jésus-Christ. Il est notre paix. Et cette paix, je l'ai aussi à l'intérieur avec moi-même. Et cette paix, je dois la dégager avec les autres. Je dois être en paix avec tous les autres, si, en tout cas, ça dépend de moi. Maintenant, si ça dépend pas que de moi, ça dépend des autres. En tout cas, de mon côté, je devrais tout faire pour être en paix avec les autres. Non, si les autres ne veulent pas, ben, je leur pardonne, et moi, j'ai fait mon boulot, je peux pas faire leur travail. Si je vais vers eux, je peux pas non plus, faire les deux parties. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Procurer la paix. Alors il y a plusieurs noms, hein. Il y a pacifique, pacificateur, pacifiste. Pacifique, c'est ceux qui désirent la paix. Pacificateur, c'est ceux qui contribuent à rétablir la paix. C'est très bien aussi. Et pacifiste, alors c'est qui préconise la paix à tout prix. Ça, c'est peut-être pas toujours une bonne solution, parce que chacun est libre, hein. Chacun est libre, mais en tout cas, nous devons tout faire pour que la paix, nous dégagions la paix, et que nous soyons en paix envers tous, et avec tous, avec chacun. Et au début de l'Église était en paix, et elle dégageait la paix autour. Bien sûr, il y a eu la persécution, hein. L'ennemi n'a pas laissé faire les choses, mais malgré tout, l'Église était en paix. Alors, huitième béatitude, j'apprends à être heureux dans la mauvaise réputation en obéissant. Parce que bon, si je désobéis et que j'ai une mauvaise réputation, ça c'est pas la même chose. Ça, si je suis en faute, une faute doctrinale, ou une faute morale, ou une faute autre, c'est vrai que ça c'est embêtant. J'aurai une mauvaise réputation parce que j'ai sali le Seigneur par une faute récurrente, et ça, je dois demander pardon, et peut-être même demander pardon à l'Église, etc. Mais j'apprends à être heureux dans la mauvaise réputation en obéissant. La mauvaise réputation, comment est-ce qu'elle vient? C'est en parlant de Jésus. Si vous ne parlez jamais de Jésus à qui que ce soit, hop, le diable va vous laisser peut-être tranquille, quoique, il va peut-être essayer de vous abattre d'une autre manière, parce que c'est un fourbe, mais forcément, si vous obéissez à Dieu, vous allez avoir des difficultés, hein, des persécutions. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Hein, ils sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Donc ça, c'est important, ça. Pas l'attitude du caméléon qui se met à la couleur de l'environnement. Ah, t'es pas chrétien, ben moi non plus. Ah, t'es chrétien, ça, ben, ça tombe bien, je le suis. Donc, voilà, on se dégage. C'est vrai que là, il y a, une manière d'être, une sagesse de Dieu, remplie du Saint-Esprit, je peux être ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui ça va leur plaire parce que vous dégagez ce qu'ils ont besoin, l'amour, vous les aimez. C'est formidable. Mais quand on commence à parler, quelquefois, on n'est pas prêt, les gens ne sont pas toujours prêts à recevoir la parole de Jésus. Et la persécution, c'était la norme dans l'Église primitive. Paul a été persécuté. Et il faut pas dire, ah non, c'est pas la volonté de Dieu que je sois, qu'on me fasse du mal. Pourquoi est-ce qu'on a dit du mal de moi? Je vais plus le faire, comme ça je n'aurai plus mal. Ou alors, peut-être qu'il fallait pas que Mais, il n'y a rien à faire d'une manière ou d'une autre, vous pouvez être le plus sage de la terre. Hein, parce que si ce serait seulement le fait d'avoir manqué de sagesse, quelquefois c'est simplement qu'il y a une persécution, puis c'est tout. Des fois, il y a l'être mauvais, l'être animé par la chair, va aller contre celui qui est animé par l'esprit. Et tout simplement, Jésus, quand il était dans la maison, quand il était jeune, on ne sait pas, entre 12 et 30 ans, je peux vous assurer, les frères et les sœurs, ça n'a pas dû être facile, hein, parce que la chair était là. Et lui, il était animé de l'esprit, il vivait selon Dieu, mais... vous savez, tout le monde a des combats. C'est pas toujours facile quand on rencontre des gens animés par la chair. C'est Isaac et Ismaël. Ismaël conduit c'est une image bien sûr parce que. Mais nous avons des gens autour de nous qui nous font la guerre aussi s'ils peuvent. Donc, mais c'est sûrement pas une solution de se cacher. Et de ne plus parler de Jésus pour ne pas être insulté. Nous sommes heureux alors qu'on nous insulte à cause du nom de Jésus, que nous professons, qu'on dit sur nous des mensonges et des mauvaises paroles, et qu'on va même jusqu'à nous faire souffrir pour son nom, parce que nous nous rappelons que Dieu nous prépare une grande récompense. Tu vois, on ne peut pas faire l'économie de toute souffrance, de toute difficulté, par rapport au témoignage. Alors on ne témoigne plus, mais on ne fait pas... Vous savez, la parole de Dieu, elle dit ça, et c'est très clair, ceux qui me confesseront, ben je confesseront mon nom devant les hommes, et bien moi aussi je confesserai leur nom devant le Père, mais celui qui aura eu honte de moi, et bien moi aussi j'aurai honte d'eux devant mon Père. L'ennemi voudrait nous dire, sois heureux de cacher ta foi car tu n'auras pas à en souffrir. Jésus a dit autre chose. Hein? Voilà. Alors, je rappelle les points que nous avons vus. Je suis heureux, c'était la première béatitude, je suis heureux de recevoir la révélation de ma pauvreté pour être enrichi de Dieu. Je suis heureux d'avoir cette révélation de ma pauvreté. C'est comme ça que j'ai pu devenir riche. C'est en réalisant que je suis pauvre. Je suis riche de Dieu maintenant. Deuxième chose, je suis heureux de me repentir car le royaume de Dieu a pris place en moi et s'est passé par des larmes. Eh bien oui. Mais le royaume de Dieu a fait sa place dans ma vie. Troisième chose, je suis heureux en étant doux et en transmettant la douceur aux autres. Il y a encore du travail, il y a encore du chemin. Des fois, c'est pas parfait. Eh bien, on va se remettre à l'ouvrage et laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour que la douceur puisse être une réelle qualité en nous et que nous puissions la dégager, que les gens puissent dire oui, c'est une personne reconnue comme étant douce. Je suis heureux, quatrième, quand je me soumets à Dieu pour lui obéir, quand j'ai faim et soif de la justice. La cinquième, je suis heureux en aimant inconditionnellement comme Dieu, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La compassion envers les autres. Et il y a de la joie à donner aux autres qui ont des besoins. Je suis heureux en gardant, et un exemple c'était avec le missionnaire Cédric et son épouse, vraiment l'Église a fait ce qu'elle pouvait pour soutenir, et nous avons encouragé de cette manière. Je suis heureux, c'est la sixième, je suis heureux en gardant un cœur pur et en bannissant la crainte du jugement. Bannissons la crainte du jugement, que la crainte du jugement n'est pas... Parce que ça, c'est l'ennemi qui va utiliser ça. L'ennemi va utiliser ça pour nous démolir. Et non, reprenons 1 Corinthiens 13, l'amour. Ne soupçonne pas le mal. Et quand je confesse mes fautes, le Seigneur ne revient pas là-dessus. Hein. Ça, c'est l'ennemi qui revient avec ça. Il faut que je distingue ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient de Dieu. Hein. Même ma propre chair. Quelquefois, si ton cœur te condamne, rappelle-toi que le Seigneur, lui, ne te condamne pas. Il ne t'a pas condamné. Des fois, c'est notre cœur qui nous condamne. Nous avons des cœurs tortueux, quelquefois. Mais j'abandonne cela. J'abandonne mes raisonnements, mes pensées. Et je fais confiance à la parole de Dieu. Le septième, je suis heureux quand j'ai la paix avec Dieu et que je la procure aux autres. C'est une paix extraordinaire et ça me rend joyeux. Être dans la paix, être en paix avec moi-même, être en paix avec les autres, être en paix surtout avec Dieu, la première chose, et ça me procure la possibilité d'être joyeux parce que la joie, elle peut s'établir quand nous sommes en paix. Si nous ne sommes pas en paix, comment faire la joie ? Ça ne se produit pas artificiellement. Donc, elle est bâtie sur la justice du Christ, sur la paix que je reçois en lui, et puis de la paix, je peux recevoir la joie par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le royaume de Dieu qui est en nous. Et le huitième, j'apprends à être heureux dans la mauvaise réputation en obéissant à Dieu. Alors, si vous n'avez jamais eu une mauvaise réputation, eh bien, ce sera une école. Vous allez y passer, tôt ou tard. D'accord? Et n'essayez pas de contourner l'histoire en disant « Non, la mauvaise réputation, pas question. » Parce que ça, c'est une chose horrible, la mauvaise réputation. Je suis fâché. C'est vrai, nous sommes tous fâchés quelque part qu'on dise du mal de nous, non? On n'aime pas ça. J'aime pas ça, ça fait mal à ma chair, ça. D'accord? Ben, il faut qu'elle meure, ma chère, de toute façon. Eh bien, si c'est le moyen que Dieu utilise pour me faire mourir, mais voilà, mourir tout ce qui doit mourir, c'est-à-dire ma chair, afin que l'esprit soit vivifié. J'ai dur avec ça. Eh bien, vous avez dur aussi, ben on a dur tous. Voilà. Ce bonheur est déjà pour nous dans cette vie. Et en plus, extraordinaire, le bonheur, c'est déjà là. Et alors, je vais vous raconter vraiment tout ce qui se passe. C'est au bout de chaque béatitude, on va les donner les 8 à la fois. En plus, nous avons des promesses pour plus tard, quand nous serons avec le Seigneur. Alors, quelles sont ces promesses-là? Le royaume des cieux est à nous. Extraordinaire, enfin, on est déjà dedans, mais le royaume des cieux est à nous. Dieu nous consolera. Dieu nous consolera. Extraordinaire. Nous hériterons la terre que Dieu nous a promise. Nous allons hériter la terre. Alors, pour tous ceux qui ont des problèmes avec des héritages, nous allons hériter, vous savez, c'est rien du tout ça. Nous allons hériter la terre. Tout est à vous, dit l'apôtre Paul. Dieu nous exaucera notre désir. Waouh ! Dieu aura compassion de nous. Dieu aura compassion de nous. Nous verrons Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Je verrai Dieu face à face. Dieu nous appellera ses fils et ses filles. Nous serons appelés par Dieu ses fils et ses filles. Nous sommes véritablement ses fils déjà maintenant, hein, et dans le ciel, pour toujours. Le royaume des cieux est à nous deuxième fois. Voilà. Le royaume des cieux est à nous. Extraordinaire. Voilà. Toutes les promesses sont pour ici. Il y a déjà le ici et il y a le pas encore. Déjà maintenant et pas encore. Alors, pour maintenant, c'est déjà extraordinaire, et en plus, la cerise sur le gâteau, le pas encore. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Dieu veut que nous soyons joyeux, remplis, heureux pleinement, si nous obéissons à cette parole, si nous vivons dans ses promesses. Voilà. Réjouissons-nous, soyons heureux, car une grande récompense nous attend dans les cieux, hein, pour ceux qui sont persécutés pour la justice. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est une chance, hein? Qu'est-ce qu'on attend? C'est pas spirituel, mais... voilà, donc, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mais c'est vrai, c'est le Seigneur qui le veut. Alors, on va reprendre un chant, Camille? Tu veux bien? Allez, on va se mettre tous debout et on va être heureux. On va exprimer notre joie. On attend plus pour être heureux. Chantons. Yes.